Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récit des bulles de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une date qui fut marquée depuis son exécution macabre par une pierre noire. Oui, je parle ici de pierre noire. Je n'utilise pas l'expression marquée d'une pierre blanche. Et pour cause, c'est bien d'un deuil dont il va être question, et d'un deuil national, d'un deuil qui aurait dû toucher tout le pays, tout le peuple de France, tant il concerne son souverain. Car oui, c'est d'un deuil royal dont il va être question ici, et même plus largement la fin de la monarchie absolue qui s'incarne pleinement et entièrement dans son roi, dans son souverain, comme c'était le cas depuis des siècles, jusqu'alors en France. Or, ce 20 janvier 1793, le roi Louis XVI ne meurt pas dans son lit d'apparat à Versailles. Il ne rend pas son dernier soupir entouré de la reine, entouré de ses plus proches, entouré de courtisans, entouré de sa première faculté, entouré des quelques ecclésiastiques encore présents qui lui auraient rendu les derniers sacrements et donné le viatique, à savoir la communion du mourant. Non, ce n'est pas de cette mort, de cette belle mort, entre guillemets, dont il va être question dans le récit qui va nous occuper. C'est d'une mort violente, une mort dont il n'a pu régler lui-même les derniers instants dont il va être question ici. Car le roi de France a été condamné à mort par son propre peuple. Il a été condamné à la mort du peuple. Il a été condamné à recevoir la mort qui était donnée par l'instrument révolutionnaire qui remettait un petit peu les différentes classes de la société au même niveau concernant la peine capitale. Louis XVI allait être guillotiné ce 21 janvier 1793. Et c'est de ses dernières heures, en compagnie de sa famille, et c'est de sa préparation justement à ses derniers instants, et c'est de ses derniers moments, de ses derniers mots, dont il va être question dans ce récit. Mais c'est aussi et surtout, j'espère, pouvoir vous le résumer à grands traits et en étant la plus claire possible, des faits qui ont amené justement à cette exécution, à cette peine capitale. Qui aurait pu penser lorsque le roi est apparu dans son costume d'apparat, revêtu de tous les régalias, se présentant au peuple après son couronnement, après avoir fait couronner la reine, que près de 20 ans plus tard, il eût été guillotiné. Personne alors ne pouvait imaginer que son règne allait se finir dans des éclats les plus sanglants qu'on n'eût jamais imaginé possible. Et c'est de tout cela dont il va être question dans notre récit aujourd'hui. Je vous en souhaite donc une bonne écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire, une petite notification et n'hésitez pas non plus à me dire quel sujet vous souhaiteriez que je traite dans un prochain épisode. Il est tout juste 10h22. Ce matin du 21 janvier 1793, que des clameurs, que des cris de joie, que des exaltations comme on n'en avait plus entendu depuis des mois, se répandent dans toute la ville de Paris comme une traînée de poudre. Et ces exclamations et les coups de canon qui les succèdent remonte jusqu'à la forteresse du temple. Et c'est un petit garçon de même pas 10 ans qui les reçoit. Ce petit garçon ne dit rien, et pourtant sur sa joue roule une unique larme. L'enfant comprend ce qu'annoncent ces coups de canon, ce qu'annonce ce brouhaha, ces cris de joie, ces clameurs du peuple de Paris et même plus largement du peuple de France. Son père est mort. Le petit Louis-Charles est orphelin de père. Il ne bouge pas. Il reste droit, comme son papa lui a appris. Et pourtant, il laisse cette petite larme couler. Ses petits cheveux blonds sont parsemés devant ses yeux et il les repousse comme il le peut. Il veut à tout prix garder contenance. Il a toujours eu conscience de son rang. Lui, Louis-Charles, jusque-là était devenu, au décès de son frère aîné, le dauphin, comprendre l'héritier direct au trône de France, une fois que son père, qui était connu comme étant Louis XVI, viendrait à mourir. Louis-Charles était donc devenu, après le décès de son frère, Louis-Xavier, d'une très grave maladie, une tuberculose osseuse, il était devenu le dauphin. Et à partir de maintenant, à partir de ce moment où les coups de canon venaient d'annoncer le décès de son père, il n'était plus un enfant, il n'était plus un petit garçon de même pas 10 ans. Il allait devenir, pour tous, et si Dieu le voulait bien et encore, le futur Louis XVII. Et sa mère, la reine Marie-Antoinette, à peine elle aussi eut-elle entendu les coups de canon qui ne cessent de marteler le ciel de Paris, que celle-ci se précipite aux pieds de son plus jeune fils. Elle ne dit pas de mots, elle lui attrape les mains, les serre de toutes ses forces et y applique ses lèvres. Pour elle, ce n'est pas seulement son petit garçon qu'elle embrasse là pour le rassurer et le consoler, non. Elle se met par cet acte singulier au service du futur et tout nouveau souverain de France. Et pourtant, c'est un souverain sans couronne. Il ne va pas être sacré comme il est de coutume, non. Car ce tout jeune et futur souverain, de même pas 10 ans, encore, est enfermé depuis des mois dans la plus grande forteresse. Après la Bastille, ils sont en détention, attendant eux aussi que l'on vienne à statuer sur leur sort. Car oui, Louis XVI est mort. Le roi est mort. On avait coutume de dire à l'époque, une fois que l'on avait constaté, comme il était d'usage, la mort du souverain, qui était alors installé dans son lit d'apparat, « Le roi est mort, vive le roi !» Et le grand appartement du souverain qui venait à peine de rendre son dernier souffle se vidait alors d'un seul coup. Et on se rendait dans celui du dauphin. Toute une foule de courtisans et des plus proches venait alors lui rendre hommage et lui proposer ses services. Et on se préparait alors ainsi à la veiller et à transporter dans une retraite au flambeau, après l'autopsie et la préparation, comme il était d'usage, du corps du souverain dans la basilique royale de Saint-Denis. Mais autant vous dire qu'il n'en sera pas du tout de même pour Louis XVI. Et pour cause, Louis XVI n'est pas mort de sa belle mort, entre guillemets. Il n'est pas mort à Versailles. Il n'a pas pu compter sur le soutien de ses proches. Il n'a pas pu compter sur le soutien de sa femme, sur le soutien de ses enfants, sur le soutien de sa sœur, Madame Élisabeth. Il n'a pas pu compter sur les dernières paroles rassurantes de son confesseur, ni sur les derniers sacrements pratiqués dans une ambiance feutrée à Versailles. Non. Et pour cause, la famille royale est séparée. Ils ne l'ont pas accompagné jusqu'à l'échafaud. Et c'est heureux d'ailleurs. Louis XVI est mort guillotiné. On ne l'appelait plus Louis XVI, mais on l'appelait le citoyen Louis Capet. Parce que oui, c'est bien du citoyen Louis Capet dont il est question. En cette matinée glaciale du 21 janvier 1793, et comme tous les citoyens de France, il reçoit la mort que tous les citoyens de France reçoivent quand ils n'ont pas respecté la loi. Car la Révolution a souhaité pour tous les citoyens de France une seule et unique peine de mort, afin que tous les citoyens soient libres, égaux dans la vie, mais qu'ils le soient également dans la mort, qu'ils passent donc tous ad patres de la même façon. Jusque-là, la mort n'était pas donnée de la même manière en fonction du rang et en fonction de l'ordre auquel vous apparteniez. Si vous étiez d'ascendance noble, vous bénéficiez, entre guillemets, d'une mort par décapitation et, surtout, vous pouviez avoir connaissance du jour et de l'heure de votre exécution, vous permettant donc de vous mettre en accord avec Dieu, de recevoir donc les derniers sacrements et même la communion du mourant. Vous étiez amené jusqu'au lieu de l'exécution, où le peuple qui suivait celle-ci voudra vous adresser des prières et des psaumes sur tout le long du chemin. Vous étiez alors promené sur cette petite charrette qui recevait le nom de tombereau, et on vous amenait jusqu'à la place de grève où l'exécution était prévue. Si vous étiez donc de noble ascendance, vous bénéficiez donc de cette mort-là. Pour le peuple, pour la bourgeoisie, il n'y avait pas de mort définie, autant par pendaison que par décapitation. On utilisait l'arsenal des outils de mort, autant les armes blanches que les armes à feu, pour ôter la vie. La Révolution veut donc uniformiser ce chapitre-là et propose donc un outil qui non seulement permettrait à tous de passer ad patres de la même façon, mais qui permettrait aussi de le faire de manière rapide et sans avoir à s'y reprendre à plusieurs fois, comme malheureusement on a pu le voir par le passé, notamment pour des décapitations à la hache. Alors je suis désolée, mais ce n'est pas un épisode des plus soft et des plus tranquilles que je vous propose aujourd'hui. S'il y a des jeunes oreilles, vous pouvez bien évidemment quitter cette lecture, je ne vous en voudrais en aucune façon. La Révolution choisit donc de remettre au goût du jour un outil qui existait déjà. On a eu tort de croire durant des années que la guillotine, telle qu'on se la représente et telle qu'elle nous est apparue jusque dans les années 70 en France, avait été inventé par le docteur Guillotin tout spécialement pour la Révolution. Non, le principe même de la guillotine est beaucoup, beaucoup plus ancien. Et d'ailleurs, elle ne s'appelait pas la guillotine, mais la louison au départ. Parce que oui, c'est un certain docteur Louis qui a mis au point en fait cet objet-là et qui en a déposé le brevet. Guillotin s'est contenté, lui, de l'améliorer et d'en proposer la forme définitive, celle que l'on connaît et celle qui deviendra célèbre. Alors, elle aura plusieurs surnoms, la veuve noire notamment. Et quand les différentes générations de bourreaux vont se succéder pour justement pratiquer ces exécutions, ils parleront d'affaires ou de travail. Et c'est justement d'un de ces travaux, d'une de ces affaires, que Charles Samson va devoir pratiquer en cette matinée du 21 janvier 1793. Oh, il s'est bien entendu fait tenir au courant de l'identité du condamné, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est Louis Capet, comprendre l'ancien roi de France. Celui qu'on appelait encore il y a 2 ans tout juste Louis XVI. Louis XVI, celui qui passe pour le roi à la figure la plus sympathique, un roi presque un peu bené, et pourtant il en aimait tellement loin de cette image presque débile d'un roi de France. Car oui, si Louis Capet se retrouve face au couperet de la guillotine, il ne s'y retrouve pas par hasard, non. Il a eu un procès demandé par la Convention et notamment par sa tête pensante et dirigeante, celle qui dirige, qui terrorise et qui va conditionner la suite même du régime de la Révolution, qui va préparer et instaurer le régime de terreur, Maximilien Robespierre. Robespierre demande donc instamment la condamnation par un tribunal révolutionnaire, donc, de Louis XVI, pour des faits de haute trahison et de conspiration qu'on fasse à l'ennemi, comprendre les puissances allemandes et autrichiennes. N'oubliez pas, que Louis XVI, par son mariage avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, a donc des liens étroits avec les puissances étrangères. Et que la Révolution sait très bien que, notamment Marie-Antoinette, a pu essayer d'intervenir par le biais de correspondances pour faire évader la famille royale. Ça va être notamment le fiasco de Varennes en juin 1792 qui ne fera qu'être une preuve supplémentaire. Cette condamnation pourtant est loin de faire l'unanimité lorsque Robespierre la demande. Il faut régler le cas de Louis XVI, il faut régler le cas de Louis Capet. Or, les députés de la Convention ne sont eux-mêmes pas d'accord entre eux. Il y a des débats houleux. On y passe des nuits et des heures à débattre, à savoir ce qu'on va faire du roi et de la famille royale. Il est bien entendu hors de question de les laisser s'en tirer à si bon compte. Mais est-ce que les envoyer en exil ne serait pas plus dangereux pour le nouveau régime révolutionnaire qui est en train de s'installer? Est-ce qu'il ne faudrait pas une condamnation simple, claire et définitive du roi pour servir aussi de signal à l'Europe et d'avertissement aux autres monarchies dont certaines ont encore à leur tête des monarques absolus? C'est notamment le cas en Autriche. C'est aussi le cas en Prusse. C'est aussi le cas en Russie. Le cas anglais est particulier puisque c'est une monarchie constitutionnelle. La décision de condamner le roi à mort se fait à une voix. Il s'est fallu de une voix pour que Louis XVI, Louis Capet, échappât à la guillotine. Mais ça ne sera pas le cas. Louis XVI, Louis Capet est donc condamné à mort. Et lorsque on l'en informe et lorsque on lui explique la sanction, il ne se rebelle pas. Il l'accepte. Mais surtout, il souhaite se préparer au mieux et mettre avant tout ses affaires en ordre, comprendre, être en ordre avec la religion. N'oubliez pas que pour tous et depuis plus de 1000 ans, la dénomination du roi de France est roi très chrétien. Il ne peut donc mourir sans s'être mis en ordre avec l'Église catholique, apostolique et romaine, dont la France a toujours été la fille aînée. Il va donc avoir besoin des conseils de son confesseur qui va l'accompagner jusque dans ses derniers moments. Avant d'en arriver justement à ces derniers instants, je vous propose de revenir justement à ce règne de Louis XVI. Je vous propose d'en revenir aux faits les plus marquants et au basculement de cette année 1789 et à leur détention d'abord au Palais des Tuileries, puis à la fuite à Varennes, qui va en amener à une détention beaucoup plus dure, à la prison du Temple, puis à sa condamnation à mort. Quinze années, c'est la durée du règne de celui que l'on connaissait jusqu'alors comme étant le roi Louis XVI. Un règne qui avait commencé le 10 mai 1774 et qui s'est terminé le 9 novembre 1789 lorsque le roi a été révoqué par l'Assemblée constituante. 15 ans de règne, 15 ans durant lesquels on aura vu autant de troubles, autant d'éclats sanglants, autant de mesures contestables que de mesures qui ont été appréciées et saluées par le peuple. Louis XVI pourtant n'est pas gratifié d'une image à l'égal de celle que connaissait de son vivant et qu'il connaît encore à titre posthume Louis XIV. Non. Les deux monarques n'ont pas du tout la même image, pas du tout le même charisme. Ça, c'est un fait. La figure nonchalante, les traits gros de Louis XVI ne jouent pas en sa faveur. Les portraits que l'on a, autant portraits en majesté que portraits plus privés, nous montrent le visage d'un monarque avec des traits lourds. Un regard doux, un regard qui rappelle qu'il n'était pas prévu pour lui de monter sur le trône. Non, cela devait être l'affaire de son frère aîné, mais par un concours de circonstances malheureux, comme c'est bien souvent le cas sur les trônes de France et d'Europe, eh bien c'est celui qui au départ n'était pas prédestiné et donc pas formé, et c'est surtout cela qui est le plus important, pas formé, pour régner, parce que c'est le cas de Louis XVI. Louis Capet, Louis XVI, n'était pas formé pour ceindre la couronne de France. L'éducation, son éducation, qui est une éducation de qualité, comme les celles que reçoivent tous les fils et filles de France, n'était en aucun cas au même niveau que celle de son frère aîné. Concernant les diverses affaires de géopolitique, concernant les sciences, concernant le latin, concernant l'arithmétique, les mathématiques et toutes les matières nécessaires à la bonne formation d'un futur monarque. Est-ce que Louis XVI était débile? On a bien trop longtemps voulu nous le montrer comme tel, en nous servant de ses portraits, en nous montrant et en pointant ce visage qui semble être assez inexpressif. Et pourtant, c'est loin, très loin d'être le cas. Dès sa prime enfance, Louis XVI, le futur Louis XVI, se montre être un élève fort précoce dans les études. Il est très intéressé. À l'instar de son grand-père Louis XV, il préfère passer du temps à s'enfermer dans ses cabinets, à contempler les diverses maps mondes, à passer du temps à lire, à écrire, à faire des expériences, bref, à être un homme de son temps, un homme des Lumières. On l'a caricaturé comme un benêt qui passait les trois quarts de son temps, au lieu de s'occuper des affaires d'État, à réparer les serrures, à fabriquer des horloges. On a voulu tourner dans le mauvais sens le côté manuel du roi. Or, de tous les monarques que nous avons eus, il n'est pas le seul à savoir se servir de ses mains, non. Il fut même un temps où c'était même plutôt bien vu d'avoir un monarque habile de ses doigts et qui sache autant peindre que jouer du luth, que faire des travaux d'orfèvrerie. Or, malheureusement pour lui, pour Louis XVI, cela sera tourné contre lui et dès le début de son règne, par des pamphlets qui sont apportés par des gens de cour et qui sont rapportés par le biais de leurs domestiques au peuple. Et ces pamphlets donnent des chansons qui vont s'arracher durant tout le règne. Et les fureurs utérines en sont le meilleur exemple. Ces fameuses fureurs utérines sont la compilation d'un recueil avec des gravures qui montrent Louis XVI en fort mauvaise posture. Il le montre faible, soumis, le membre impuissant face à sa femme, la reine Marie-Antoinette, offerte voluptueusement et qui, elle, ne voit aucun mal à se livrer à des pratiques fort licencieuses. Louis XVI est donc dès le départ caricaturé et jugé. Et pourtant, le peuple apprécie quand même son souverain. Le peuple lui fait des messes. Le peuple salue la naissance des enfants royaux. Le peuple essaie de vivre tant bien que mal. Parce que ce 18e siècle est traversé par des épidémies, il est traversé par des températures glaciaires et il est traversé par des récoltes beaucoup moins bonnes, qui font que justement les années du règne de Louis XVI vont être des années où il va y avoir bon nombre de troubles. Et durant presque 15 années, ces troubles vont aller crescendo. Alors, il est clair que Louis XVI n'avait que très peu d'intérêt pour les affaires de l'État. Or, il est comme ses prédécesseurs un roi de cabinet, et il est très important de dire cela. Le roi de France n'a jamais été un roi qui passe ses journées à se vautrer dans le stuc avec ses nombreuses maîtresses, qui passe ses journées dans des buffets et repas interminables, ou dans des parties de chasse, ou dans bon nombre de réceptions qu'il peut donner. Non, le roi de France est un roi de cabinet et un roi de travail qui reçoit dans son conseil d'en haut ses principaux ministres, à qui il dicte lettres de recommandation et brevets, avec qui il décide de la politique autant intérieure qu'extérieure du royaume. Et cette politique tient compte bien évidemment de l'évolution des sociétés, de l'évolution des mœurs. Le pays a beaucoup changé en quelques années. Il commence à y avoir déjà une certaine industrialisation. Le progrès technique est en marche et on doit en tenir compte. Or, il est vrai que si Louis XVI passe néanmoins un temps considérable en son cabinet avec son conseil d'en haut, les affaires de l'État ne l'intéressent pas autant qu'elles le devraient. Il est plus à l'aise à la chasse, il est plus à l'aise dans ses travaux d'orfèvrerie, il est plus à l'aise dans ses cabinets. Louis XVI aurait été un professeur de choix. Il aurait même sans doute été un ecclésiastique de choix. Il aurait sans doute préféré se penser comme un grand explorateur plutôt que comme un roi de France. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il accepte de financer le voyage de la Pérouse, dont il va se tenir informé jusqu'à la toute fin. Il veut savoir où est passée la frégate de la Pérouse, savoir si elle a bien atteint son but, se faire tenir au courant de toutes les expéditions qui peuvent apporter un peu de prestige au royaume de France. Louis XVI participe aussi, comme tout son gouvernement, à l'indépendance de ce qui était encore à l'époque une colonie du royaume d'Angleterre, à savoir ce qui va devenir plus tard les États-Unis d'Amérique. Il participe donc à la guerre d'indépendance avec comme représentant le marquis de Lafayette. Et pourtant, Lafayette, au départ, a eu du mal à convaincre le roi. Mais ses ministres lui ont rappelé que ce serait un coup et un coup d'éclat à faire valoir justement face à la puissance et à la puissance qu'était le royaume d'Angleterre à l'époque. Malheureusement, cette guerre d'indépendance est en train de creuser encore plus le déficit déjà abyssal dans lequel se trouve le royaume de France à la toute fin des années 1780. Et ce n'est pas le ministre Turgot qui ment sur la situation à Louis XVI. Non, il essaie au contraire de le prévenir de la situation, mais le roi ne l'écoute pas. Il va révoquer Turgot, il va en faire de même avec Necker, et il va, de ce fait, pour essayer de trouver une solution, convoquer les États généraux. Qu'est-ce que les États généraux ? Les États généraux, c'est tout simplement la convocation des trois ordres qui composent le peuple de France. Le peuple de France, dès son fondement, même sous les tout premiers rois de France, les tout premiers rois même francs et mérovingiens, était toujours composé de trois catégories. Au tout départ, on les appelait en ces termes « oratores », « laboratores » et « bellatores ». Sous l'Ancien Régime, on leur a choisi des noms plus clairs, à savoir la noblesse, le clergé et le tiers-état. Dans la noblesse, on retrouve tous ceux qui portent des titres de noblesse, à savoir les duchesses, marquis, comtes et comtesses, barons, etc. Bref, jusqu'à la très haute aristocratie et princes du sang. Le clergé, c'est bien évidemment tous les hommes d'église, du prêtre jusqu'au plus haut clergé de France, qui, il faut le savoir, prélève ses propres impôts. Et le tiers-état, eh bien, c'est le reste du peuple, à savoir les bourgeois et les paysans. La représentation sur le peuple de France de ces trois ordres n'est pas égale. Pour vous dire, la bourgeoisie et même la noblesse représentent à peine 1% du peuple de France. Et pourtant, ce sont eux qui vont être les plus représentés sur les états généraux. Ces états généraux s'ouvrent donc à l'été 1789. Et cet été 1789 va être l'été de tous les troubles, parce qu'il va y avoir également le soulèvement qui va mener à la prise de la Bastille. La Bastille, qu'est-ce que c'est? La Bastille, c'est la forteresse de la Bastille, n'est pas la seule forteresse qui se trouve à Paris, non. Elle est une des plus importantes et surtout, elle est celle qui contiendrait le plus d'armes. Les insurgés, ceux qui vont commencer, le peuple va commencer à se révolter parce que tout simplement, il n'y a plus assez de pain, il n'y a plus de quoi se nourrir correctement, eh bien, le feu couve sous les braises depuis des mois. Les mesures prises par les divers ministres de Louis XVI ont été tellement impopulaires. Le roi n'est pas à Paris, il est à Versailles et on ne le voit jamais. Le peuple ne voit son souverain qu'en pièces sur les monnaies. Le peuple ne voit son souverain que caricaturés sur les pamphlets qui se vendent comme des petits pains. Le peuple ne voit son souverain comme justement, on le décrit dans les pamphlets. On en rajoute, on enjolive, on raconte n'importe quoi. Mais c'est ce n'importe quoi et c'est cette rumeur qui va faire basculer le peuple de Paris et qui va le pousser à se révolter, justement. La prise de la Bastille est en soi assez rapide parce que au final, la Bastille, il n'y a quasiment personne dedans. Il faut dire que la forteresse de la Bastille est une prison de luxe. On va dire que sont enfermés dans la Bastille les prisonniers politiques. On n'allait pas les chercher au fond d'un cachot avec rien à manger, non. Ces prisonniers-là peuvent amener leurs meubles, leurs valets et ont droit à de la nourriture tous les jours. Autant dire que ce n'est pas le cas de bon nombre de prisonniers qui croupissent dans les cachots du Royaume de France à l'époque. Lors de cette journée du 14 juillet 1789, le peuple de Paris se soulève, décapite et tue le gouverneur de la Bastille et se saisit des armes. La ville entière est en émoi, on tue, on massacre tous ceux qui ont des velléités et qui sont reconnus comme étant prêts à servir le roi. Louis XVI voit bien que la situation est en train de lui échapper et les états généraux ne font que confirmer la chose. Tous ceux qui voient le roi remarquent à quel point Louis XVI a l'air totalement absent. Il ouvre les états généraux en majesté, il est revêtu de ses régalias. Comprendre les objets du sacre. Il est revêtu du manteau d'hermine. Et pourtant, personne ne le regarde. C'est à peine si on l'écoute. Le brouhaha est tel que même Louis XVI a du mal à s'entendre. Et pour cause, le roi est en deuil. Mais ça, le peuple de Paris, comme le peuple de France, ne le sait pas. Le roi est en deuil, il vient de perdre son fils aîné, le dauphin, dont je m'excuse, j'ai écorché le prénom tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il s'appelait Louis-Xavier, mais non, ce n'est pas Louis-Xavier, autant pour moi, c'est Louis-Joseph. Par contre, Louis-Joseph est bien mort d'un d'atroces souffrances de tuberculose osseuse. Le petit dauphin vient donc de mourir. Ils avaient également perdu quelques mois auparavant une fille, la petite Sophie. Mais ça, Le peuple de Paris et le peuple de France n'en a cure. Et pourtant, s'ils avaient juste su cela, ils auraient peut-être pu comprendre pourquoi leur monarque semblait totalement absent, presque perdu, comme s'il ne souhaitait qu'une seule chose, qu'on le délivrât de ses états généraux. Au final, les états généraux n'amènent à rien. La monarchie tombe. Louis XVI n'a plus aucun pouvoir. Il doit boire à la santé de la nation de France, à la santé de cette nouvelle assemblée. On lui coiffe sur la tête un bonnet phrygien. Il n'est plus rien. Il n'est plus le roi de France. Il est un citoyen comme les autres. Et à partir de maintenant, il va être traité comme un citoyen comme les autres. Il faut dire que la famille royale avait été ramenée de force de Versailles. Après les troubles de juillet, on était venu justement chercher le monarque pour lui demander du pain. Et au final, on avait fini par rapatrier et le voyage avait duré plusieurs heures. Sous les huées et les crachats, la famille royale. Celle-ci avait été logée aux Tuileries. Le palais des Tuileries avait été abandonné sous Louis XV. Le palais donc n'était plus entretenu. Et d'ailleurs, le petit Louis-Charles était très surpris de se trouver là. Et croyez-moi, sa surprise et la déconvenue de la famille royale sur le traitement qui va lui être réservé vont aller crescendo. Parce que les conditions même de vie de la famille royale, au fur et à mesure que la situation évolue et au fur et à mesure des années qui suivent le début de la Révolution, celles-ci vont changer considérablement. Au tout départ, donc, on les loge au palais des Tuileries, sous surveillance, bien évidemment. En gros, le tout Paris peut les voir, on peut les invectiver. On leur met à disposition un petit carré potager et Louis XVI et Marie-Antoinette essaient tant bien que mal de maintenir une certaine étiquette autour d'eux. Il faut dire que la famille royale est extrêmement réduite et pour cause, elle ne compte que les quelques membres que voici. Le roi, son épouse, Madame Royale, comprendre la fille aînée du couple, Marie-Thérèse. Le petit Louis-Charles, donc, qui est depuis la mort de son frère Louis-Joseph, le tout nouveau dauphin. Et Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI. C'est tout. Le reste des princes et princesses du sang, et les autres frères, donc, de Louis XVI, eh bien, eux ont pris la fuite. Ils ne sont pas restés avec le roi et la reine, ils sont partis en exil. La famille royale donc vit donc sous la protection entre guillemets de ce qui est devenu la Convention. La Convention, cette assemblée composée donc de députés qu'on va appeler montagnards et girondins en fonction de l'endroit où ils se trouvent justement dans ce fameux hémicycle. Si vous voulez, c'est l'ancêtre de notre droite et gauche actuelle. En fonction de là où ils se trouvent, eh bien les montagnards sont les plus hauts, ce sont ceux qui se trouvent à gauche. Les girondins, eux, ce sont ceux qui vont se trouver à droite. Et justement, au sein même de cette convention, les avis divergent. Que faire de la famille royale et comment les traiter ? La famille royale elle-même ne se sent pas à l'aise, pas du tout en sécurité aux Tuileries, d'autant qu'elle sait que le nouveau régime vient de déclarer la guerre aux autres puissances en Europe. Et que cette guerre pourrait être l'occasion justement d'inverser la vapeur. La reine Marie-Antoinette le sait très bien et elle sait aussi que en France, elle peut toujours compter sur des appuis. Sur des appuis qui pourraient lui permettre justement de rejoindre l'Autriche et de rejoindre les partisans encore de la monarchie en France pour renverser la révolution et remettre le roi sur son trône. C'est donc elle et le comte Axel von Fersen qui vont organiser en juin 1792 ce qui deviendra la fuite à Varennes. Le processus aurait pu aller jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu une cascade d'erreurs, si Marie-Antoinette ne s'était pas perdue dans le palais des Tuileries et donc n'avait pas retardé l'équipée, si Axel von Fersen les avait accompagnés jusqu'au bout, bref, s'il n'y avait pas eu, comme je le dis, une cascade d'erreurs. Lorsqu'ils sont récupérés à Varennes, la haine est à un point culminant. Le roi a voulu fuir. Le roi a voulu trahir la convention qui jusque-là le protégeait. Eh bien, c'est terminé. Le roi sera donc mis en détention. Et pas aux Tuileries, et certainement pas dans les mêmes conditions, non. On va l'envoyer en détention avec sa famille dans la forteresse du Temple. Pour vous faire une idée de ce qu'était la forteresse du Temple, qui est en fait l'endroit où on enfermait aussi des prisonniers, mais c'était l'ancienne grenier de fortune où on mettait le trésor des Templiers, voilà. Et c'est devenu l'endroit où on stockait aussi la fortune des monarques et du royaume de France. Et c'est là, dans cette forteresse imprenable, qu'on va donc enfermer sous bonne garde la famille royale. Alors on ne les enferme pas encore dans une seule cellule, non, on fait déménager l'archiviste de la tour et donc on met à la disposition de la famille l'appartement de l'archiviste qui se compose de quelques pièces. Alors c'est sûr que pour Louis XVI et Marie-Antoinette, ce n'est plus du tout le même confort. Et pourtant, ils ne s'en plaignent pas. Même leur vestiaire se voit être purgée complètement. Les habits ne sont plus des habits de cour, ce sont des habits décents, mais des habits qui composent avec une détention. Cette détention va donc durer plusieurs mois et des luxes de précaution sont prises. On fouille tout, on inspecte le moindre grain de leur nourriture, on fend les fruits afin de savoir et si dans les noyaux on ne ferait pas passer des messages, idem pour la mie de pain. On prive Louis XVI de rasoir, de ciseaux, afin d'éviter que le roi ne se suicide. Il en rigole d'avance. Le quotidien de la famille est assez simple. Le roi instruit son fils. Il lui fait d'une certaine façon l'école à la maison. Louis XVI et Marie-Antoinette sont très proches de leurs enfants. Ils ont pour eux une éducation très moderne. Leurs enfants les vouvoient, certes, mais ils les appellent maman et papa. Il y a entre eux une réelle affection. Louis XVI participe donc aux travaux d'écriture de son fils. Il lui fait faire aussi un petit peu de jardinage, de géométrie. Il joue avec lui aux petits jeux et aux quelques jouets que les gardes nationaux et que les commissaires présents au temple ont accepté de laisser là. Seulement voilà, avec le temps, on commence à chercher à se débarrasser et à régler la question du roi. Et cette question va vite se régler lorsqu'on découvre une correspondance que Louis XVI avait entretenue avec le député Mirabeau sur justement un projet d'évasion pour rejoindre le prince de Brunswick et donc pouvoir ensuite, avec son aide et avec notamment son soutien, renverser la révolution et remettre le roi sur le trône. Et ça va être une des pièces, sinon la principale, pour faire condamner le roi pour haute trahison. Parce que oui, après des mois de détention, dans des conditions difficiles, mais qui restent quand même supportables, Louis XVI se voit condamné à mort par un tribunal révolutionnaire. Il sera exécuté le 21 janvier 1793. Il va donc pouvoir commencer à se préparer. Et c'est de cette préparation dont nous allons parler maintenant. La date de l'exécution est connue. Le verdict même de ce procès expéditif est connu et il est sans appel. Louis Capet, anciennement connu comme étant Louis XVI, roi de France et de Navarre, a été reconnu coupable d'haute trahison et il encourt la peine capitale, à savoir d'être exécuté en place de la Révolution et de subir la même peine que tout citoyen moyen, à savoir la guillotine par le bourreau Charles Samson. Lorsque les commissaires lui expliquent la sentence, le roi ne dit rien. Il reste droit. Il demande juste à pouvoir se préparer comme il se doit et à mettre ses affaires en ordre. Pour ce faire, son confesseur le rejoint donc. Lorsqu'on lui sert ce dernier repas, le 20 janvier, le roi est calme. Il s'apprête à recevoir sa femme et ses deux enfants, ainsi que sa sœur. Il recommande au petit Louis-Charles, dont le visage est noyé de larmes et qui essaye, du haut de ses même pas 10 ans, de garder contenance. Il essaye de garder contenance ce tout petit garçon, mais il n'y arrive pas. Il pleure le départ de son papa, il voudrait lui dire tant de choses, mais il sait qu'il faut qu'il écoute les recommandations de son père. Celui-ci lui demande, lui abjure, lui implore de ne pas chercher à le venger et de ne pas se retourner contre tous ceux qui vont le condamner. Le petit Louis-Charles accepte. La reine s'écroule, elle, aux pieds de son mari. Elle n'a pas de mots assez forts. Il faut dire que ces dernières années, le couple s'est révélé. Une affection bien plus forte que celle des tout débuts est venue les entourer. Ils ont pu être l'un pour l'autre un soutien silencieux ces dernières années. Ce soutien indispensable, on est en train de l'arracher là à Marie-Antoinette. Et la pauvre femme ne peut l'accepter et ne le supporte pas. Elle implore donc son mari de lui accorder une dernière entrevue. Une dernière entrevue qui aurait lieu à 8h du matin, juste avant l'exécution. Le roi fait mine d'accepter, sans doute pour la tranquilliser. La reine le supplie même d'avancer l'heure. Il faut que ce soit à 7h. Les dernières étreintes. Et enfin, la famille le quitte. La famille quitte le roi pour sa dernière nuit. Cette dernière nuit qu'il passe avec son valet. Et lorsque celui-ci vient le réveiller à 5h du matin, il avoue à Cléry qu'il a bien dormi. Il demande même à Cléry de lui couper les cheveux, parce qu'il veut tout simplement éviter à Samson d'avoir à le faire. Seulement voilà, Cléry ne peut accéder à des ciseaux ni même à un rasoir. Les commissaires présents sur place refusent tout simplement de leur donner. Le roi s'agace. Mais enfin, pensez-vous que je vais m'ôter la vie ? Et pourtant, rien à faire. Louis Capet ne revêtira pas la tunique des pénitents, comme il eût été d'usage il y a quelques années encore, non. Il revêt une redingote simple et on lui fait grâce du tombereau, la charrette qui conduit le condamné jusqu'à l'échafaud. Le maire de Paris, voulant sans doute s'attirer les bonnes grâces du roi juste avant son exécution, lui propose de monter dans sa voiture. Rideau baissé, le roi arrive donc jusqu'à la place de la Révolution, que nous connaissons nous aujourd'hui comme étant place de la Concorde, ce matin du 21 janvier 1793. Il fait 3 degrés, il y a un brouillard à couper au couteau et près de 20 000 soldats entourent la place, comme s'ils avaient peur qu'un mouvement de foule venait à soustraire le roi et à l'amener en quelques lieux. Il faut dire que la menace est réelle, parce que les soutiens du roi commencent à se rapprocher de Paris. Et de nombreuses escarmouches ont eu lieu, et vont même avoir lieu d'ailleurs sur le trajet qui va amener Louis XVI jusqu'à l'échafaud. Celui-ci avait souhaité, dans ses dernières volontés, se recueillir à l'église de la Bonne Nouvelle. Cette église avait été construite par son aïeul, Anne d'Autriche. Il souhaitait donc s'y recueillir. Or, au moment même où il s'apprêtait à le faire, un commando en faveur du roi, prêt à le soustraire et à donc le faire évader, est mis en déroute par les gardes qui entourent la voiture. Les quelques résistants sont assassinés de sang-froid. Louis XVI, Louis Capet, poursuit donc son chemin et arrive donc sur la place de la Révolution, face au piédestal de la statue de Louis XV. Celle-ci vient d'être déboulonnée. L'échafaud a été peint en rouge. Samson est là, debout. Santerre aussi. Le roi dit quelques paroles. Il n'en veut à personne, mais surtout il clame son innocence. Il la clame de toutes ses forces et il voudrait poursuivre plus avant. Mais Santerre fait en sorte que les bruits des tambours qui retentissent pour annoncer l'exécution finissent par tout simplement couvrir la voix du souverain. Samson demande à ce qu'on dégage le cou du roi. Il lui ôte donc le foulard que celui-ci portait autour du cou. Il lui coupe les cheveux et on s'apprête à lui lier les mains. Mais le roi, là, non, il refuse qu'on lui lie les mains. Il ne l'accepte pas, non, il ne veut pas passer à Patresse les mains liées. Mais c'est seulement son confesseur qui le calme, qui l'implore de se comporter en fils de Saint-Louis et de rejoindre le ciel, qui lui rappelle qu'il serait comme le Christ lorsque celui-ci avait été crucifié et donc attaché à la croix. Il est donc un peu plus de 10h22 lorsque Samson fait basculer la planche, que le couperet tombe. Et celui-ci présente la tête de Louis XVI toute sanguinolente au peuple. Et c'est son fils également, Henri, qui la reçoit. Et là, on voit la foule se précipiter vers l'échafaud, tenter de recueillir le sang du roi. Certains hurlent « Le sang d'un monarque porte bonheur, il va nous donner de bonnes choses ». Certains se maculent même le visage du sang du monarque tout juste décédé. On essaye d'arracher les cheveux. Bref, il faut mettre à l'abri le corps du roi afin d'éviter que celui-ci soit tout simplement démembré par le peuple qui souhaiterait en avoir sa part. Mais ce ne sera pas le processus d'inhumation classique, celui qu'ont connu tous les monarques, tous les rois, reines et princes et princesses de France. Non, car Louis XVI n'est plus. C'est de Louis Capet dont on parle. Il va donc connaître une inhumation et la fosse commune. Et c'est donc par les tambours par les clameurs, par les hurrahs, par les « Vive la nation » et « Vive la France » que le petit Louis-Charles apprend la mort de son père. Ce petit garçon qui hier encore pressait la main de son papa, le regardait le visage embué de larmes, refusait d'admettre que celui-ci ne le reverrait plus, là vient de comprendre que son papa ne reviendrait plus. Il essaie de rester droit, il ne pleure pas. Et pourtant, une larme coule, mais il voudrait la retenir, il n'y arrive pas. Il est petit, certes, mais il a très bien compris que plus rien ne serait comme avant. Sa maman est à ses pieds, il ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là. Elle lui baise les mains. Elle, ce n'est pas uniquement le petit garçon qu'elle réconforte, non. C'est au futur roi de France qu'elle s'adresse. Louis-Charles regarde Marie-Thérèse. Elle a le visage embué de larmes. Ses yeux lancent autant d'éclairs qu'il ne semble presque plus ne pouvoir contenir à ses dos. Marie-Thérèse est écroulée sans aucune convenance dans les bras de sa tante. Madame Élisabeth, elle, est sidérée, silencieuse. Les trois femmes vont devoir compter uniquement sur elles-mêmes pour s'en sortir. Or, Madame Élisabeth rejoindra très bientôt son frère. Elle aussi sera guillotinée. Quant à Marie-Antoinette, elle va très bientôt être séparée de son petit garçon. Parce que oui, Louis-Charles va devenir un pion que l'on doit maîtriser, un pion que l'on doit mettre au pas. On sépare donc le petit Louis-Charles et on l'envoie se faire rééduquer par un couple d'instituteurs qui va recevoir la charge de précepteur-instituteur alors qu'en fait ils ne sont que savetiers, le savetier si bon, qui va réussir là où tous pensaient qu'il échouerait. Il va faire oublier au petit Louis-Charles son propre rang et il va pousser le vice jusqu'à faire témoigner le petit en le faisant boire pour que celui-ci accuse sa mère d'inceste. Lors du procès de Marie-Antoinette qu'on est en train de mettre en place, cette accusation devait être la principale. Or, elle ne sera pas retenue. Si le petit Louis-Charles a pu dire au revoir à son père, il n'en sera pas de même pour sa mère. Il ne saura jamais que la reine Marie-Antoinette a été guillotinée. Il ne saura pas plus ce qu'il adviendra de sa sœur. Pendant près de 6 mois, ce petit garçon de même pas 10 ans sera mis au secret dans des conditions innommables. On ne se préoccupera pas de savoir s'il a mangé le repas qu'on lui fait passer par un guichet. On ne changera pas ses droits, ses draps, on ne lui donnera aucun soin. Lorsque la convention relâchera un peu son étreinte autour de lui, un des membres actifs qui viendra le voir ne reconnaîtra en rien le petit garçon jovial, joyeux, que l'on voyait faire ses exercices d'écriture sous l'œil attentif de son père. Cet enfant mourra en détention. Louis XVI est le dernier monarque absolu en France. Cette tête tranchée fera peur à toute l'Europe et même le peuple de France fera peur aux autres peuples et aux autres monarchies d'Europe. C'est un signal, attention, regardez ce qui peut vous arriver. Et c'est un signal qu'auront très bien compris notamment les Russes. Vladimir Ilitch Ulianov et les autres bolcheviks et mencheviks s'inspireront de la Révolution française. Ils s'inspireront des conditions de détention de la famille royale pour en faire de même pour la famille impériale, pour Nicolas II, la tsarine Alexandra et leurs enfants. Ils s'inspireront de leur détention et de leur mise au secret pour pouvoir ensuite les exécuter. La mise en garde aura servi et aura été clairement entendue. La monarchie en France ne sera alors plus jamais la même et n'aura plus jamais le même aura.